Nous aimerions continuer le sujet et lire un verset dans 1 Corinthiens, 1er épître aux Corinthiens, le chapitre 1er. Lisons à partir du premier verset. Paul, apôtre appelé de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et Sosthène le frère, à l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, saints appelés, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et leur Seigneur et le nôtre. Nous y voyons peut-être aussi en bref une description de ce que c'est que l'Assemblée de Dieu. Nous y voyons que l'Assemblée de Dieu a ce qu'on appelle souvent une représentation locale, à savoir à Corinthe. Et cette Assemblée, cette entité est décrite comme étant composée des sanctifiés dans le Christ Jésus, saints appelés, c'est-à-dire mis à part par l'appel divin. Et ils sont liés, eux, à Corinthe, ils sont liés à tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est déjà une indication de ce qui est valable pour les croyants, pour l'assemblée à Corinthe, est valable pour toutes les assemblées dans le monde entier, pour la seule et unique assemblée dans le monde entier. Je voudrais aussi encore lire dans la première épître à Timothée, Timothée, chapitre 3. Et le verset 14. « Je t'écris ces choses, espérant me rendre bientôt auprès de toi. Mais si je tarde, je t'écris afin que tu saches comment il faut se conduire, se comporter, dans la maison de Dieu qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. » Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Nous voyons dans ces quelques versets en 1 Timothée 3, une fois de plus, qu'il y a un intime lien entre l'Assemblée et Christ dans la gloire. En fait, il fallait que Christ vienne, que le Fils vienne sur la terre, vive sa vie de consécration à Dieu, se donne en sacrifice, entre dans la mort, soit ressuscité, monte au ciel et soit glorifié à la droite du Père, pour qu'ensuite le Saint-Esprit descende sur la terre en acte 2 et forme en un les enfants de Dieu dispersés. Crée cette nouvelle unité, cette entité qui est appelée l'Assemblée de Dieu. En 1 Corinthiens 10 à la fin, nous trouvons trois catégories, trois compagnies. C'est les Juifs, c'est les Grecs, voire les païens, et c'est l'Assemblée de Dieu. Et encore de nos jours, ces trois catégories existent. On est soit Juif, soit Grec ou païen, soit membre de l'Assemblée de Dieu. Alors, cette Assemblée maintenant, je ne veux pas entrer trop dans les détails maintenant, mais je voudrais encore souligner que c'est l'Assemblée du Dieu vivant. Mais quelle grâce de savoir que cette Assemblée, c'est ce que ce Dieu vivant s'est dessiné dans les temps, avant même la fondation du monde. Avant la création que nous connaissons dans le livre de la Genèse, déjà Dieu avait dans son cœur d'avoir cette assemblée comme une épouse pour son fils. Mais la parole ne parle pas de l'épouse ici. Il a eu à cœur ce Dieu vivant, ce Dieu qui ne change pas. Ce Dieu qui n'est pas mort, comme tant d'idoles dans ce monde ont été vivants pour un temps, dans les cœurs des gens, des païens surtout, et puis ils sont morts, ils sont oubliés, comme les dieux des Grecs. Dans l'époque, il n'y a plus de gens qui les vénèrent tant que je sache. Alors, le Dieu vivant, il a son assemblée. Nous allons voir que veut dire assemblée tout à l'heure, mais elle est la colonne et le soutien de la vérité. Et il est important de savoir que Dieu n'a pas laissé à notre imagination la question comment il faut se comporter. C'est une grâce. Parce que comment autrement, nous qui sommes déjà ici, un peu plus d'une centaine de personnes, on ne pourrait jamais tomber d'accord. Alors, nous pouvons tomber d'accord simplement en étant soumis à la parole. C'est chaque fois de nouveau étonnant de voir comment, dans le monde entier, les gens viennent des ténèbres à la lumière et croissent dans la connaissance de la parole et tout simplement commencent à pratiquer ce que nous trouvons dans la parole et grandissent davantage. C'est une joie quand on les rencontre. On a des histoires, des cultures, des langues très différentes, mais on est unis dans le Seigneur et unis dans le désir aussi de pratiquer ce que cette parole nous dit. Sachons alors comment il faut se comporter. De nos jours aux Pays-Bas, il y a peu de paroles qui sont aussi mal supportées que le fait « il faut que ». Parce que l'homme ne veut plus entendre qu'il faut que. L'homme veut être sa propre norme, veut décider soi-même ce qu'il veut. « Je fais ce qui bon me semble », comme dans les temps des juges. Et ça, même dans le peuple de Dieu. Alors la question qui se pose, est-ce que moi, vous, toi, est-ce que nous voulons tout simplement comprendre que Dieu a dit « il faut que tu te comportes de telle et telle façon ». Et puis si on nous tout simplement donc connaître ce comportement qui correspond au maître de la maison. En fait, quand on a parlé de la table du Seigneur tout à l'heure, nous devrions ne pas oublier qu'une table se trouve toujours, ma table se trouve dans ma maison. Et aussi la table du Seigneur, c'est une vérité qui est intimement liée à la vérité présentée dans la parole de Dieu par cette illustration qu'est la maison de Dieu. La maison de Dieu à laquelle sied la sainteté, la paix, l'ordre divin, la justice, ainsi de suite. Avant d'avancer, j'aimerais encore revenir sur la dernière étude en rappelant, un frère m'en a même parlé pendant la pause, qu'en Exode 33, quand je parlais de la tente que Moïse a érigée hors du camp, ce n'était pas le tabernacle pour la simple raison que le tabernacle n'était même pas encore là. Je suis allé un peu trop vite dans mes pensées et paroles, mais il était clair que Dieu ne pouvait plus rester au milieu de son peuple, au milieu du camp, à cause du fait qu'ils avaient méprisé ses droits. Ce n'est qu'à la fin du livre de l'Exode que tu trouves que la gloire de l'Éternel remplissait le sanctuaire. Donc maintenant, nous allons nous tourner vers cette présentation sur l'Assemblée. Et nous allons voir quelques aspects de cette Assemblée. L'Assemblée ou l'Église, selon le plan de Dieu, les privilèges des rachetés quant au rassemblement. Tout ce que Dieu nous a donné dans sa parole, c'est pour sa gloire, mais aussi pour notre bien. L'homme de nos jours, dans les généralités, veut s'en libérer. De nos jours, par exemple, le mariage entre un homme et une femme à durée de vie, on dit que c'est de l'esclavage. Il faut s'en libérer, tantôt avec tel, tantôt avec tel. Toutes sortes de ce que la parole de Dieu appelle de l'immoralité, de la fornication, sont normalisées de nos jours. Mais nous, l'homme, au moins les Hollandais, ils oublient que c'était pour notre bien que Dieu a inventé cela, que Dieu a instauré cela. Et il en est de même en ce qui concerne la vie d'assemblée, c'est pour notre bien qu'il nous a donné ses instructions, comment se comporter. Il y aura trois parties dont on va aujourd'hui probablement traiter les deux premières parties. D'abord, la base de l'Assemblée. Deuxièmement, comment dans la pratique réaliser l'Assemblée de Dieu. Et troisièmement, les caractéristiques d'une Assemblée, mieux dit d'un rassemblement local selon le Nouveau Testament. Cette troisième partie sera réservée pour demain, Dieu voulant. Que veut dire assemblée ou église? Alors, l'assemblée, l'église en grec, c'est ecclésia, d'où vient même votre mot église, signifie littéralement appeler dehors, hors de quelque chose. Et je crois que concrètement, l'église, c'est la compagnie qui a été appelée par Dieu hors des ténèbres et hors du monde pour lui appartenir à lui seul. C'est la totalité des rachetés. Alors, les traductions possibles de cette expression en français sont assemblées ou églises. Et je ne parle évidemment pas des assemblées des frères, comme on les appelle de façon erronée. Je ne parle non plus des assemblées locales quelconques. Je parle de l'assemblée ou de l'église telle que la parole de Dieu nous la montre. Et qui appartiennent alors à cette assemblée ou église? C'est tous les hommes, les êtres humains donc, qui par Dieu ont été appelés hors du monde durant cette période, cette dispensation de la grâce, pour lui appartenir à lui seul. Ce n'est donc pas à mélanger avec ce qu'on appelle de nos jours l'église. Si tu entres ici au village et tu demandes où est l'église, ils vont te montrer plutôt un bâtiment. L'église n'est pas un bâtiment. Alors, l'église, c'est un édifice, oui, mais spirituellement parlant. Alors, que signifie assemblée? C'est que Dieu unit ses personnes avec le Seigneur Jésus au ciel, de façon donc verticale, et les uns avec les autres de façon horizontale. Parfois, il devient plus clair, quand nous voulons définir ou décrire quelque chose, si on se pose aussi la question ce que quelque chose n'est pas. Et donc, je voudrais un instant tarder sur cette question, ce que l'Assemblée ou l'Église n'est pas. Alors, ce n'est pas un certain groupe de croyants qui se distingue d'avec les autres croyants. Si donc de nos jours, je regarde autour de moi, je vois que tant de dénominations chrétiennes appelées églises, assemblées ou congrégations, ainsi de suite, dévient de la parole, je dis que mais allons, je vais faire quelque chose de mieux. Je fonde alors une nouvelle association, un nouveau groupe. J'appelle cela église. Néanmoins, à la lumière de la parole, ce n'est pas l'Église, ce n'est même pas une Église. Ce n'est non plus, par ailleurs, l'Assemblée ou l'Église n'est non plus un bâtiment où l'on se réunit. C'est aussi toujours bien de nous rappeler, si par exemple le dimanche matin vous dites aux enfants que allons, on part déjà à l'Assemblée, c'est un langage assez délicat. Qu'est-ce que vous voulez décrire par « on part à l'Assemblée » ? Vous voulez peut-être dire à la réunion, mais dites alors la réunion, vous avez une langue qui est riche, vous en êtes fier généralement, alors utilisez la richesse de la langue française. Et si vous voulez dire que c'est le bâtiment, c'est encore pire. Alors, maintenant vous dites que vous n'êtes que frère, donc vous placez une plaque derrière, dehors, pour dire que assemblée des frères, alors c'est devenu une secte. Quel nom est-ce que nous portons? Rien. Ça embête, n'est-ce pas? Ça embête les gens, les croyants autour de nous, et ça nous embête donc. J'ai souvent eu des entretiens avec des croyants qui disent donc que « Mais vous partez à quelle église ?» Je dis que j'appartiens à la seule église, l'unique église de Dieu. C'est quoi donc? Je dis que ça, c'est l'ensemble de tous les rachetés. Ah oui, moi aussi. Moi, je dis que mais dans ce cas, on est d'accord. Non, mais vous partez donc à quelle église? Je dis, je ne pars pas à l'église, j'en suis un membre. Ah bon? Oui. Mais finalement, vous faites donc quoi? Je dis que vous voulez dire où je pars le dimanche. Oui! Bon, je dis, mais ne demandez pas à quelle église je pars. Je ne peux pas partir à l'église. Je ne suis que membre de l'église. Mais je me réunis avec d'autres croyants, tout simplement, comme la parole dit. Au moins, c'est ce qu'on essaie. Ah bon, hein? Ça s'appelle donc comment? Moi, je dis que ça n'a pas de nom. Dans les débuts, aux Pays-Bas, on a dit, les frères ont dit, en 1800 quelques, on est juste un rassemblement de croyants. Donc, tout de suite, après au moins quelques années, on dit que ça, c'est donc leur appellation. Et on a fait comme si c'est... Donc, les chrétiens de divers milieux ont dit que ça, c'est le rassemblement des croyants. Et on a écrit ça avec majuscule pour en faire un nom dénominationnel. Ce n'est pas ça, c'est juste une description, c'est tout. Et ça ne peut pas être plus que cela. Ça n'est pas pratique, n'est-ce pas? Parce que tu dois toujours expliquer. Mais tu ne peux pas dévier de la parole et coller n'importe quel nom sur votre local juste pour éviter que ce soit peu commode. Parce que vous déviez alors de la parole. Donc, chez nous, au local, on a juste ce que c'est, à savoir bâtiment pour les réunions chrétiennes ou salle pour les réunions chrétiennes. C'est tout. Mais pas assemblée des frères, assemblée des croyants, je ne sais pas quoi. Donc, nous devons comprendre que ce n'est pas une appellation spécifique. Alors, si on pose ensuite la question, qu'est-ce que c'est que la base? Nous devons nous rappeler un instant la valeur de l'Église ou de l'Assemblée. Cette Assemblée a une grande valeur au cœur de Dieu. Nous avons déjà vu quelques versets. Par exemple, en Matthieu 13, où l'Assemblée est comparée à une très précieuse perle. Mais aussi Acte 20, que Dieu se l'est acquise par le sang de son Fils. Il se l'est acquise, c'est-à-dire pour lui-même, pour avoir quelque chose pour lui-même. En Tite 2, c'est aussi dit pour le Seigneur Jésus qu'il s'est acquis un peuple pour lui-même. Et en Acte, je crois, 17, non, c'est un autre chapitre, mais de toute façon, c'est dit qu'il a appelé un peuple d'entre la nation, c'est-à-dire juive, et d'entre les nations. Un peuple pour son nom. Un peuple pour lui seul, qui lui appartienne. Éphésiens 5, verset 25, dit aussi, « Christ a aimé l'assemblée, et s'est lui livré ou donné lui-même pour elle. » C'est-à-dire, il s'est livré dans la mort pour elle. Alors, j'aimerais aussi nous rappeler donc que si cette assemblée a eu tant de valeur, que Christ s'est donné lui-même pour elle, que Dieu a offert son Fils pour elle. Alors, nous devons comprendre que ce n'est pas optionnel de oui ou non aimer l'Assemblée. Je ne parle pas de l'Assemblée locale, je parle de ne pas aimer l'Assemblée, de ne pas aimer la vérité, que nous trouvons aussi dans la parole en ce qui concerne l'Assemblée. Et la parole à maintes reprises souligne l'unité de cette Assemblée. Il n'y a qu'une seule Église et elle est une unité unique. Par exemple, Éphésiens 4 nous dit, il y a un seul corps. Matthieu 13 dit qu'il a vu une perle à grand prix. Nous, de nos jours, on ne voit plus cette unité. Mais lui, il la voit toujours. Heureusement, elle ne peut être détruite quant à la valeur que Dieu voit. Nous, on en a fait un amalgame et une destruction totale par notre faillite à travers les siècles, y inclus les dernières années où nous étions en vie. Jean 1, 11, verset 52, dit aussi que Christ a donné sa vie pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Ce qui ne veut pas seulement dire qu'il a voulu qu'il soit un, qu'il soit uni. Ça ne veut non plus dire qu'il soit réuni. Ça veut dire qu'il les a assemblés en un. c'est-à-dire envers une seule personne qui en forme le centre. Cette expression est beaucoup plus profonde que nous ne le voyons dans notre langue de nos jours. Rassembler en un, c'est-à-dire envers et en lui, cette Église seule a son unité. Et c'est lui seul aussi qui la maintient. Ce n'est pas nous. La maison de Dieu qui a été confiée à notre responsabilité, on en a fait une catastrophe. Mais nous parlons tout d'abord sur la base de ce que Dieu donc a vu. Nous trouvons un quatrième point, je voudrais parler de ce qui est le propriétaire de l'Assemblée. L'Assemblée est la propriété de Dieu et il l'a donnée à son Fils. Voilà pourquoi le Nouveau Testament nous parle par exemple de mon Assemblée en Matthieu 16, « Je bâtirai mon Assemblée ». Ça parle aussi de l'Assemblée du Dieu vivant, on a lu ça en 1 Timothée 3, verset 15. Ça parle de l'Assemblée de Dieu dans une localité spécifique, on a lu en 1 Corinthiens 1, verset 2. Et en 1 Thessaloniciens 1, verset 1er, on lit que la parole parle de l'Assemblée en Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui la protège, qui lui donne sa valeur et sa position. Et nous devons toujours nous rappeler que cette Assemblée n'a qu'un seul chef. On se rappelle les grandes institutions chrétiennes qui ont inventé un beau jour que, bon, on ne peut pas nier que Christ est le chef de l'Église. Le problème, c'est seulement que Christ est très loin, il est au ciel. Alors, pour résoudre ce problème, on a dit que l'Église a deux chefs. Un qui est glorifié au ciel, mais c'est très loin, donc il faut aussi un chef sur la terre. Et c'est le pape. Le problème, c'est seulement, essaye ça avec un corps. Tu dis que la tête est un peu trop loin du corps. Tu coupes la tête et tu places une autre tête entre les deux. La mort arrive. Donc, évidemment, ça ne peut pas être la solution. Quand Dieu a dit que Christ est le chef, Christ était déjà glorifié au ciel. Éphésiens 1, par exemple. Et pourtant, il est et il reste le seul et unique chef. Ça aussi, c'est une vérité, mais qui a aussi un impact direct sur notre vie d'assemblée locale, comme on verra probablement demain. Il est la maîtresse pierre du coin, c'est-à-dire, dans la construction, c'était le point de départ et la norme pour toute la construction de l'édifice. Il est aussi la pierre de norme qui aide à contrôler tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. En fait, tout se réfère à lui. Tout ce que nous pouvons rencontrer, on peut seulement le mettre en relation avec lui et on aura tout de suite la réponse, est-ce que telle ou telle chose peut, oui ou non, se faire. Si nous parlons encore de la question, qui est le propriétaire de l'Assemblée, alors les conséquences pratiques sont par exemple que l'Assemblée n'est pas notre Assemblée. C'est très facile aussi, hein. Tu rencontres un croyant, ton fils te demande, « Mais papa, c'est qui ?» Tu dis que, « Ah, il est dans notre assemblée à Pau. » Ça, c'est grave. C'est très sérieux. Parce qu'on a déjà vu que dès que c'est notre assemblée, ce n'est plus la sienne. Donc, le langage est très facile, beaucoup plus commode que les descriptions compliquées à... Mais c'est contraire à la parole. Et on a besoin juste d'utiliser ces expressions 3, 4, 5 fois pour finalement commencer à croire ces choses. Et surtout, la jeune génération va croire cela et va oublier ce qu'est réellement l'assemblée, à savoir l'entité, la totalité de tous les enfants, de tous les rachetés. La parole de Dieu ne connaît point des assemblées des frères. Et dans la parole... Il n'existe non plus des assemblées évangéliques ou larges ou strictes, ni églises pentecôtistes, églises baptistes, etc. Hélas, dans la pratique de nos jours, oui. Mais nous ne devrions pas dévier de la parole de Dieu à cause de la pratique qui abonde autour de nous. J'aimerais aussi un peu parler sur les malentendus liés à l'assemblée. à cette expression. Il y a deux expressions fréquentes qui sont à vérifier. Et la première expression, c'est « Nous appartenons à l'Assemblée » ou « Nous sommes de l'Assemblée à Bordeaux-Lac ». Alors, bibliquement parlant, si je dis que je suis de l'Assemblée dans telle localité, cela signifie que je suis la propriété du Seigneur Jésus et que je suis uni avec lui, avec tous les croyants dans ma localité. Pour moi, c'est encore un cas plus compliqué, pour vous peut-être aussi. Moi, en fait, je suis membre de l'Assemblée de Dieu qui est dans la ville où j'habite, à savoir, ça s'appelle Reisen. Or, je me réunis avec des croyants à une quinzaine de kilomètres. Je suis donc souvent à la réunion dans la ville d'Almelo. Je ne suis donc pas membre de l'Assemblée Almelo, pour la simple raison que je n'y habite pas. Je suis membre de l'Assemblée ou de l'Église dans la localité où je suis, alors qu'il n'y a là, dans cette localité, dans cette ville, aucune, autant que je sache au moins, aucun rassemblement au nom du Seigneur Jésus. Donc, je me rends ailleurs. Donc, en plus, nous devons nous rappeler que l'Assemblée locale, dans le sens des réunions chrétiennes ou du rassemblement des rachetés au nom du Seigneur Jésus, n'a pas de liste de membres. Je ne peux pas donc dire que je suis membre de l'Assemblée à Lyon-Vaise. C'est faux. Je suis membre de l'Assemblée, ou plutôt du corps de Christ, pour être très correct. Je suis à Lyon, oui, ça on peut dire, et on peut même dire que je me réunis avec d'autres croyants à Lyon-Vaise. Là, c'est correct. Mais ça, donc, de dire « nous appartenons à l'Assemblée à X », ça ne signifie nullement, à la lumière de la parole, que nous appartenons à un certain groupe qui aurait le droit de s'appeler l'Assemblée. Parce qu'on ne l'est pas. On est juste une très petite partie. Au moins, presque dans toutes les localités que je connais, on n'est qu'une petite partie de la totalité des croyants de cette localité. Il y a encore un autre malentendu, à savoir, nous partons à l'Assemblée. Bibliquement, cela signifierait que nous fréquentons une réunion où nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus et où lui-même est donc le centre. Comme dans la vie quotidienne, le mot « réunion » veut parfois aussi simplement indiquer une rencontre. Mais je dirais donc, si tu veux dire que je pars à la réunion, ne dis pas « je pars à l'Assemblée ». Parce que c'est deux choses distinctes. Si tu dis que je pars à l'Assemblée à Pau, tu auras de la difficulté parce que tu dois partir où ? L'Assemblée, c'est-à-dire la totalité des croyants de Pau, tu ne vas les trouver nulle part et partout le dimanche matin. C'est mieux de dire « je pars à la réunion ». Ça ne peut nullement donc dire, si je dis « nous partons à l'Assemblée », nullement dire que nous sommes membres d'un certain groupe ecclésiastique qui est appelé l'Assemblée des frères ou les Assemblées des frères. Et nous voyons que nous sommes bien en danger. Partant maintenant de là, je voudrais aussi dire une chose. On est soit, on va voir ça demain soir, soit on est réuni au nom du Seigneur Jésus ou on ne l'est pas. On est réuni au nom du Seigneur seulement dans la mesure où son nom, son autorité, sa parole est respectée en tout. Et si j'en dévie pour 1% ou pour 100%, ça, c'est peu égal. Nous en dévions pour 1%, nous ne sommes plus réunis au nom du Seigneur Jésus. Et que je parte du côté gauche ou droite, ou que je rentre à l'église catholique ou à l'église protestante, pentecôtiste, ainsi de suite, ça n'a aucune importance. Nous ne serions plus réunis au nom du Seigneur Jésus. Ce que j'ai constaté, surtout dans la francophonie européenne, c'est que je pose à un moment donné la question, est-ce qu'il y a une assemblée quelque part dans telle localité? On dit, oui, il y en a. Je dis, ah bon? Ça, c'est encourageant. Ah oui, mais ce n'est quand même pas une assemblée en communion avec nous. Je dis, mais comment? Soit on est expression localement de l'unique assemblée ou église de Dieu, ou on ne l'est pas. C'est pourquoi les frères, en 1800 quelques, ont dit que peu importe de quel côté on quitte le lieu du rassemblement pour rejoindre le camp, si on a quitté le lieu du rassemblement, on ne devrait plus parler de, je ne sais pas, l'assemblée. Ils sont un peu plus stricts, ils sont un peu plus ceci et cela. On est soit réunis au nom du Seigneur ou on ne l'est pas. Et on ne doit pas faire l'amalgame dans la tête. Notre problème, c'est ce que j'ai souvent constaté, vous avez aussi un cantique et nous l'avons en irlandais aussi, que l'unité de ton église est belle. Quand il y a eu des problèmes aux Pays-Bas, il y avait, c'est votre cantique 20, il y avait des frères qui, donc dans les années 90, après cela, ils n'ont plus jamais proposé ce cantique, premier couplet. Seulement, ils disent cantique 20 après partir de la deuxième strophe. Pourquoi? Parce qu'ils disent maintenant tout est en ruine. Regarde. Mais écoutez, mes frères, depuis plus de 19 siècles, c'était déjà en ruine. Le seul problème a été que nous, comme nos peut-être arrière-grands-pères étaient sortis de l'église réformée, je ne sais pas d'où, nous en avions oublié qu'il y avait là-bas des croyants. Mais le Seigneur les voyait. On était déjà divisés depuis 19 siècles. Mais maintenant, comme ça va, à travers ma parenté et mes amis, subitement, ça me dit beaucoup. Mais ça a déjà été une tristesse pour le cœur du Seigneur Jésus depuis presque 20 siècles maintenant. Et maintenant, subitement, on dit, on ne peut plus chanter ça. J'ai eu même à commettre une erreur très sérieuse il y a 2 ans. J'étais dans une assemblée, un frère propose le cantique. Moi, j'étais très touché par justement l'unité de l'Église qui est indétruisable, ou comment on dit. Donc, de toute façon, devant le cœur de Dieu. Et j'ai dit, chantons aussi la première strophe. Après ça, il a été frustré, froissé. Il a dit, que comment tu peux proposer cela? Alors que j'ai dit explicitement à partir de la deuxième strophe. Moi, j'ai dit que parce que toujours l'unité de l'Église est belle. Et moi, je m'en réjouis. Et quand je vois le seul pain, je ne peux que m'en réjouir. Je ne peux... Et nous voyons, nous faisons l'amalgame dès qu'alors nous en a des connaissances, amis, etc., dans certains milieux, qui sont au moins d'origine, par certaines raisons historiques, etc., peut-être un peu plus proches de nous que l'Église catholique, pentecôtiste, ainsi de suite, on a des difficultés à chanter la première strophe. Mais, mes frères, c'était déjà une catastrophe en 1800, quelque ou je ne sais pas quand est-ce que ce frère a composé ce poème. Et nous devons toujours nous rappeler, le seul pain parle de l'unité de l'Église qui est belle aux yeux du Seigneur et de Dieu. Et j'aimerais aussi rappeler, même si c'est peut-être sur le plan émotif, on peut dire que je suis dur, mais peu importe combien je dévie de la parole de Dieu, dès que nous en dévions, on ne peut plus dire être réunis au nom du Seigneur. Et c'est un avertissement, pas pour d'autres, mais pour moi-même. Peut-être parce que je vais m'imaginer que, oh, mais je ne vais jamais, si je dois être très clair, nous n'allons jamais aller si loin que de devenir comme l'Église catholique. Ah bon, il n'y a pas besoin de devenir comme l'Église catholique pour perdre la présence du Seigneur Jésus. Est-ce que cela veut dire que le Seigneur ne va plus bénir sa parole? Il est libre de le faire, il est souverain. Mais si nous voulons être réunis au nom du Seigneur Jésus, il ne faut pas plus ou moins être dans ce qu'on appelait, parfois, de façon erronée par ailleurs, le mouvement des frères. Il faut se réunir ou être réunis selon la parole. Et c'est ce qui compte. Et n'allons pas nous flatter nous-mêmes et nous aveugler nous-mêmes pour dire que nous, on est au bon endroit. On peut être au bon endroit et d'ici 5 ans ne plus l'être. Alors que peut-être même on est encore tous ensemble. Mais se contenter d'une forme extérieure alors que la vie n'est plus là, je veux dire la relation vivante n'est plus là. On a plus ce désir, Seigneur, toi que mon âme aime, où paies-tu ton troupeau? Où voudrais-tu réunir les tiens? Alors, ça devient une forme extérieure. Et on a un fort danger de ne plus être dans la réalité réunis au nom du Seigneur Jésus. On peut encore chanter dans le même recueil, peut-être utiliser la même traduction, et pourtant, ne plus être réunis au nom du Seigneur Jésus. On peut s'appeler assemblée évangélique, stricte, je ne sais pas, assemblée des frères. Ces appellations ne disent rien. Ce qui dit quelque chose, c'est est-ce que nous nous soumettons réellement à toute la parole de Dieu, à ses principes? Et là, ce sera pour la gloire du Seigneur. Et alors aussi pour notre Bien. Nous aimerions arriver à la deuxième partie. Comment dans la pratique réaliser l'assemblée de Dieu ? Alors, le premier point, c'est que l'assemblée ou l'église de Dieu est visible. Peut-être vous allez dire maintenant, mais c'est visible comment ? Nous allons voir tout à l'heure. Ce n'est pas visible parce qu'on a des bâtiments, qu'on se donne des noms, qu'on met une plaque sur un bâtiment, mais autrement. Dieu aimerait que ses pensées concernant l'assemblée soient rendues visibles sur cette terre. Et c'est pour cela que l'assemblée est appelée, dans son caractère local, est appelée une lampe, un chandelier. On peut donc la voir. Qu'est-ce qu'un chandelier fait ? Répandre de la lumière. Prendre soin de la lumière. Le Seigneur même a dit que personne ne prend... j'ai oublié en français, mais de toute façon, on ne prend pas une bougie, par exemple, pour la placer, ou une lampe à huile pour la placer sous une table ou sous le lit. Mais on place ça sur un pied pour que ce soit bien visible. Qu'est-ce que nous devons tenir haut, maintenir ici-bas? C'est celui qui est la lumière du monde. Montrer qui il est. Nous n'avons pas besoin de répandre notre lumière, mais de répandre sa lumière. Alors, l'assemblée est aussi appelée la colonne et le soutien de la vérité. En 1 Timothée 3, on avait lu ça. On peut donc la lire, c'est-à-dire lire le message qu'elle propage. Alors, juste, on se rappelle un instant. Quand à l'époque, il y avait, un général romain, et il avait eu une victoire. Qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait souvent le buste ou quoi, la tête de la personne en marbre, et on plaçait ça sur une colonne, sur un soutien, pour que ce soit vu de près et de loin. Et on en a vu encore les dernières années, même on en a encore retrouvé par-ci et par-là, en Moyen-Orient et autour de la Grèce, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'était des statues. La statue en tant que telle, cette pierre, ce pilier n'a pas tant de valeur. La valeur, c'est la tête maintenue en haut. Et c'est ainsi que la parole de Dieu appelle l'Église, non pas la vérité, non, mais la colonne et le soutien de la vérité. Si les gens de nos jours doivent connaître ici dans cette société où nous vivons, qu'est-ce que c'est que la vérité ? Ils vont la trouver où ? Dans les religions, non. Dans le commerce, non. Dans l'athéisme, non. Ce n'est que parmi les enfants de Dieu qu'ils peuvent encore voir la vérité être manifestée. Et c'est pour cela que c'est si important de ne pas dévier de cette vérité, de ne pas en enlever un aspect quelconque. Éphésiens 3 dit aussi que par l'assemblée, la sagesse de Dieu est manifestée, c'est-à-dire tant dans ce monde que même devant les anges, comme Éphésiens 3 nous le dit. Et on peut dire, l'assemblée est l'instrument par lequel Dieu veut glorifier le Seigneur Jésus. C'est un instrument pour maintenir la gloire de Dieu et du Seigneur Jésus dans ce monde. C'est la raison pourquoi Dieu voudrait encore garder cette église pour un temps qui probablement est devenu très bref, très court, sur cette terre. Maintenant, la question se pose, mais comment alors l'assemblée de Dieu est rendue visible dans la pratique? Je crois, d'une façon particulière, cela se fait quand les croyants se réunissent. Et je voudrais encore tirer ça un peu plus dans un sens large, à savoir que quand la vie d'assemblée est réalisée, et je crois que ça ne se limite pas aux réunions, c'est aussi la vie qu'on a 7 jours sur 7. Et plus que nous sommes dans ces sociétés modernes où tout est stressé, pressé, ainsi de suite, et tout est précipité, plus que c'est devenu difficile. Mais ça parle au cœur. Je voudrais juste donner un exemple. Nous avions un frère de 94 ans qui était hospitalisé. C'était le seul de sa famille qui vivait encore. Son épouse était décédée. Il avait un seul fils. Eh bien, et pourtant, à tout moment, à l'hôpital, il était visité. Alors, j'entre dans la chambre à l'hôpital. Il y a une infirmière. Je salue le frère, je l'embrasse. Et l'infirmière, par curiosité, demande, mais monsieur, ça, donc le visiteur, moi, c'est encore qui? Ah, le frère dit, c'est mon frère. Bon, lui, ayant 94 ans, et moi peut-être 44 ans à l'époque, l'infirmière regarde de gauche à droite, de l'un à l'autre, plusieurs fois, et elle secoue la tête. Non, ça ne va pas. Ensuite, encore quelques minutes après, une sœur entre. Ça, c'est qui? Ça, c'est ma sœur, dit le frère âgé. Et là, à un moment donné, donc, ça a été l'occasion pour qu'il parle. Juste quelques paroles. Mais ça a parlé, et très fort. Et c'est ainsi qu'on peut être en témoignage, sans une longue prédication. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus a dit qu'à ceci, tous connaîtront la vérité, c'est que vous avez, que vous ayez de l'amour les uns envers les autres. Ça doit se voir. Et je dirais aussi, et si nous connaissons des croyants qui sont dans d'autres milieux, et s'ils sont malades, c'est la même chose, mes frères et sœurs. C'est la même chose. Je me rappelle qu'au nord du Cameroun, donc je parlais avec un musulman voisin qui était quand même pas loin du royaume, dois-je dire. Mais il a dit, mais vous êtes tous divisés. Heureusement, je connaissais quelques pasteurs de diverses églises là-bas, dénominations. Et j'ai dit, mais écoutez, voisin, il n'y a aucun problème. Venez avec moi dans la voiture. Et on va poser à chaque pasteur cette question-ci. Par comment un homme peut-il être sauvé? Et je dis que si à la fin, vous trouvez des réponses différentes, je suis prêt à entrer dans les entretiens. Mais si vous avez la même réponse, vous allez croire. Parce que vous utilisez la division parmi les chrétiens pour vous soustraire à l'impact de l'évangile. Il a refusé d'entrer dans la voiture. Parce qu'il savait déjà ce qui allait arriver. Heureusement, je connaissais que ces pasteurs étaient des vrais croyants. On ne peut pas faire ça avec tout le monde. Mais juste pour dire que cette unité, même si nous ne pouvons pas faire une unité inter-évangélicale ou je ne sais pas quoi, nous sommes quand même frères et sœurs en Christ, avec tout un chacun qui a aussi Jésus-Christ comme son sauveur. Heureusement qu'on l'est. C'est pourquoi, dès le commencement, le plan de Dieu était de réunir ses enfants. Voilà pourquoi les chrétiens, dès le début, se sont réunis régulièrement et ils le faisaient fidèlement. Et toi? Parfois, on pose la question que pourquoi est-ce que dans plusieurs pays, alors les assemblées ont énormément grandi. Beaucoup de gens sont venus au Seigneur. Le nombre d'assemblées même est croissant, ainsi de suite. J'ai dit tout simplement, allez poser la question que combien de fois ils se réunissent. Par exemple, à l'époque, j'étais en 97, j'étais au Congo, RDC, dans plusieurs villages, les frères et sœurs se réunissaient chaque matin, en Égypte, chaque jour, aux Indes, certaines régions, chaque jour, au Pérou, certaines régions, chaque jour. Et on s'étonne de ce qu'il y a croissance. Notre rythme d'une réunion de prière par semaine est peut-être juste suffisant pour ne pas mourir. Mais si nous voulons croître, il faudrait peut-être réfléchir autrement. Vous allez tout de suite me dire que mais ce n'est pas possible en région bordelaise parce qu'on vient de près, de loin et tout ça. Mais je dis, mais bon, d'accord. Je crois que c'était Spurgeon qui en hiver, donc le prédicateur baptiste en 1800 quelque, où beaucoup de gens venaient au Seigneur et il tenait des prédications de l'Évangile. Et on lui a posé la question que ça se fait comment? Et il a demandé aux visiteurs qui posaient la question que mais comment cela se fait que tant de gens viennent au Seigneur? Il a dit que je vais vous montrer le chauffage de notre église. Et il est descendu en étage inférieur avec le visiteur. Des centaines de frères et sœurs étaient à genoux, avant la réunion d'évangélisation pour prier. Est-ce que vous croyez que Dieu a changé? La croissance aux Indes, en Égypte et au Congo, je ne sais pas où, peut souvent être une excuse pour nous. Et on dit que, ah oui, mais l'Europe, c'est très dur. Est-ce que vous croyez que l'Afrique n'est pas dure? Je crois que parfois, je vois des réalités très dures en Europe. Je ne les nie pas. Mais je vois des réalités aussi très dures en Afrique. Et je dis tout simplement, la grande question est-ce que nous sommes dévoués, consacrés, persévérants? Je peux vous poser la question, vous êtes combien? Là où vous êtes combien le dimanche matin? Et vous êtes combien la soirée où vous êtes ensemble pour la prière et l'étude? Peut-être à ce niveau, juste pas mourant. Ne vous étonnez pas. Ah oui, mais j'ai un emploi qui demande beaucoup de mon temps et de mon énergie. Ah bon? Vous croyez que les frères en Égypte et au Congo n'ont pas trop à faire? Et ils ne se battent pas pour leurs deuxièmes vacances d'année. Ils se battent pour que leur famille, demain, ait quelque chose à manger. Ou peut-être même aujourd'hui. Et ils se privent de leur temps au champ pour aller se réunir pour la prière, sachant que sans la prière, ça ne peut pas marcher. Alors la question est, si c'était la volonté de Dieu que l'Assemblée se réunisse, vous êtes où quand l'Assemblée ouvre la parole pour être édifiée? Vous êtes où quand l'Assemblée est réunie par le Seigneur lui-même pour l'étude hebdomadaire? Vous êtes où quand l'Assemblée se réunit pour prier? Si vous ne voulez pas mourir spirituellement parlant par la famine, ce serait urgent de vous joindre aux croyants lorsqu'il y a cette réunion. Et ne vous faites pas croire qu'en France, au sud-ouest de la France, c'est plus difficile qu'ailleurs en Europe ou en Afrique ou je ne sais pas où. C'est une question aussi de volonté. Et aussi, la même chose aux Pays-Bas. Hein. Les frères ont souvent dit, si tu veux savoir si une assemblée est réellement en santé, ne pars pas le dimanche matin. Pars à leur réunion de prière et tu vas voir. Alors, juste pour dire, si un frère, je ne sais pas, disons de la Chine venait, mesurez votre température spirituelle localement et ne fréquente que la réunion de prière. Quelle sera sa conclusion? Et si c'est déjà un frère de Chine ou d'Argentine, Argentine, combien plus le Seigneur est vite et rapide à mesurer la température que nous avons localement. Alors, nous avançons. L'Église de Dieu devient visible. En acte 20, nous lisons qu'à la Troade, les disciples étaient réunis le premier jour de la semaine pour rompre le pain, c'est-à-dire aussi avec un but précis. Ils savaient d'avance que nous allons être réunis pour rompre le pain. Ce n'était pas par hasard qu'étant ensemble maintenant, ils se disent, mais rompons le pain. Non, c'était un but spécifique et connu. Hébreux 10, verset 25, nous dit de ne pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes. Alors, particulièrement, lors de la fraction du pain, souvent appelée la scène ou la sainte scène, est rendu visible le fait que l'assemblée est une unité. L'unité de tous les croyants vivant sur cette terre. Cette unité que nous ne devrions jamais oublier. Car nous qui sommes plusieurs, sommes un seul pain, un seul corps, 1 Corinthiens 10. En même temps, nous nous rappelons de la mort expiatoire du Seigneur Jésus, étant remplis d'adoration pour le Père et le Fils. Au moins, ça devait être le cas. Que ce ne soit pas juste un acte technique, parce que le Seigneur veut qu'on rompe le pain, alors on rompt le pain, alors que nos pensées sont ailleurs. Et nous savons, je crois tous, combien, surtout quand on a déjà pendant un certain temps rompu le pain, c'est facile de ne plus y être avec son cœur et ses pensées tout entières. Il y a encore deux problèmes, mais aussi leur solution divine. Le problème numéro premier que j'aimerais considérer avec vous, c'est que toute l'Église sur cette terre ou dans un certain pays peut-elle encore se réunir en un seul endroit? Je crois que, évidemment, nous devons dire non. Dans la pratique, c'est impossible. On ne peut plus réunir en un seul endroit dans le monde entier tous les rachetés. Déjà, au début, par ailleurs, ce n'était pas ainsi. Encore moins de nos jours. Nous savons que les croyants à Jérusalem n'avaient pas une, je ne sais pas, si grande cathédrale que de pouvoir héberger plus de 3000 personnes. Ils se réunissaient dans les maisons, nécessairement. Si on pense que dans un salon en Israël, en ce moment-là, ça pouvait contenir 30 personnes, ce qui est déjà beaucoup, il y avait au moins une centaine d'endroits où on se réunissait, mais c'était une seule assemblée, agissant en unité, dans tous les sens. Alors, nous devons toujours nous rappeler qu'il y a une solution divine. Il n'y a donc qu'une seule église ou assemblée sur cette terre. Et à elle, tous les vrais croyants de notre dispensation de la grâce appartiennent. Mais, heureusement, il y a bien en tout lieu où des croyants habitent une représentation locale de cette seule et unique Église de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a partout des rassemblements réunis au nom du Seigneur Jésus. Mais dans une ville comme, je ne sais pas, Albi, Biarritz, et je ne sais pas combien d'autres villes, l'Assemblée de Dieu est représentée parce qu'il y a, je n'en doute pas, des véritables croyants. Donc l'Assemblée est représentée là-bas. C'est pour cela que nous ne devrions... Il y a des expressions comme quoi, quand quelque part un rassemblement au nom du Seigneur commence, on dit qu'une assemblée a été fondée. La table du Seigneur a été érigée. Tout ça, c'est des fausses expressions. L'assemblée de Dieu était là dès que le premier croyant vivait dans cette localité. Qu'il soit déménagé vers là-bas ou qu'il se soit converti sur place. Et dès qu'il est là, ce premier croyant, l'assemblée universelle donc a sa représentation locale, si petite qu'elle soit. C'est elle la seule assemblée locale. Donc une question qui se pose, qui appartient donc à l'assemblée locale de Valence, de Lyon, de Paris, de Bordeaux, de Pau, Rochefort, ainsi de suite. Si tu vas dans la parole, tu trouves, par exemple, l'assemblée qui est à Jérusalem dans les Actes, chapitre 11, verset 22, et l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, on a lu, c'est là en 1 Corinthiens et même en 2 Corinthiens 1, verset 1. C'est-à-dire, c'était l'assemblée à Corinthe, c'était l'ensemble des rachetés à Corinthe, qui appartient donc à l'assemblée locale de Bordeaux, tous les rachetés de Bordeaux. Tant pis pour Jean Daniel, mais il n'y appartient pas, parce qu'il n'habite pas à Bordeaux. Il habite à Tresse, il appartient à l'Assemblée de Dieu qui est à Tresse, même s'il n'y a pas de rassemblement au nom du Seigneur Jésus à Tresse. Ainsi de suite. Je crois que cette localité s'appelle Savignac ou quoi ? Salignac. Voilà, bon, il y a un couple qui habite ici, ils appartiennent à l'Assemblée, à l'Église de Dieu qui est à Salignac, même s'il n'y a pas de réunion chrétienne selon la parole ici, autant que je sache. Donc, oui, toute l'Église de toute la terre ne peut se réunir en un seul endroit, mais il y a bien en toute localité où il y a au moins un croyant, l'Église est représentée. Et s'il y en a 100 000, tous ceux-là forment ensemble l'Assemblée de Dieu dans cette localité. Nous devrions nous rappeler de cela. L'Assemblée à Bordeaux, c'est l'ensemble de tous les rachetés. Qu'on les connaisse ou ne les connaisse pas, ils y appartiennent. Mais vous dites que peut-être, mais là, ça devient difficile. Comment alors appeler ce qui se fait à Bordeaux-Lac? Eh bien, c'est les réunions chrétiennes à Bordeaux-Lac. Très simple. Pas plus que ça. Dès qu'on en fait plus, on va au-delà de la parole de Dieu. Alors, la première question, premier problème, c'est est-ce que l'Assemblée tout entière, universelle, peut se réunir en un seul endroit? Non. C'est compliqué. Impossible même. Mais un deuxième problème, est-ce qu'alors, de nos jours, les vrais croyants d'une certaine localité se réunissent tous au même endroit? Et on doit dire aussi, malheureusement, Presque nulle part, c'est le cas, autant que je sache. Presque partout où tu arrives, tu vas trouver plusieurs bâtiments appelés églises, ainsi de suite. Les véritables croyants même sont dispersés. Alors, mais la question se pose, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que tous les croyants d'une localité ne se retrouvent pas ensemble? Ce n'est pas parce que Dieu nous a laissé libres de faire le choix qui nous plaît sur un sujet si important à son cœur. Il a été très clair sur la vérité de l'Assemblée. Mais parce que nous, comme hommes, depuis des siècles par ailleurs, on n'a pas écouté Dieu, mais nous avons eu nos propres idées sur le rassemblement des rachetés. Cela commençait déjà à Corinthe, où les uns s'appelaient de Paul et les autres de Céphas et les autres d'Apollos, ainsi de suite. Et ceux qui étaient hyper spirituels se disaient être de Christ pour se distinguer encore de meilleure façon d'avec les disciples de Paul et d'Apollos, ainsi de suite. Mais ce n'était non plus spirituel. Ainsi, malheureusement, au bout du temps, au bout des siècles, de nombreux groupements ecclésiastiques se sont formés où se trouvent, par la grâce de Dieu, aussi de véritables croyants, donc de nos frères et sœurs en Christ. Il y a au moins 1500 dénominations qui sont un peu connues et répandues, et je crois qu'il y a encore des milliers d'autres. On dit souvent qu'à Douala et à Lagos, au Nigeria et au Cameroun, presque chaque nuit, quelqu'un a un rêve ou une vision pour fonder sa propre, comme on dit, boutique religieuse. Parce que c'est très lucratif même, parce que tu peux ainsi recevoir les dîmes et c'est avantageux, quoi. Donc, les dénominations ne font que se multiplier. Mais que dit la parole? Est-ce qu'il faut donc dire que, comme dans tous ces milieux, il y a de véritables croyants? Réunissons-les ensemble. Ça, c'est le mouvement interévangélique qui existe depuis des décennies. Ce n'est pas la solution de la parole de Dieu. Je crois que la solution que Dieu nous donne est simple, mais pas souvent facile pour nous, surtout à cause de nos liens de parenté, d'amitié, ainsi de suite, avec des croyants dans divers milieux. Les chrétiens peuvent encore de nos jours se réunir exactement comme Dieu l'avait prévu dès les débuts, selon son plan original. Cela même quand ce n'est pas tous les croyants qui sont prêts à le faire. Que ce soit par ignorance ou par obstination, ce n'est pas à nous de décider. 1 Corinthiens 11, verset 18 dit « Quand vous vous réunissez en assemblée », ça veut dire dans le caractère de la seule et unique assemblée de Dieu sur cette terre comme il la voit. Un rassemblement de croyants de nos jours n'est que très rarement toute l'assemblée dans cette localité. Je crois que nous tous, on connaît d'autres croyants là où nous habitons. Heureusement qu'il y en a d'autres. Tristement, on n'est pas tous ensemble le dimanche ou pour les réunions, oui. Mais ils appartiennent tous à cette seule église. Un rassemblement de chrétiens au nom du Seigneur Jésus devra pourtant impérativement porter la caractéristique telle que Dieu l'a prévue pour toute son Église. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons être une représentation locale de la seule Église et ne pas refléter les caractéristiques de cette assemblée devant les yeux de Dieu. On va voir ça encore un peu tout à l'heure. Des chrétiens donc qui se réunissent en assemblée dans le caractère de toute l'assemblée devront toujours demander au Seigneur Jésus comment lui il veut qu'ils se réunissent, comment lui il veut qu'on se décide, quelle décision prendre pour une admission, pour une exclusion, pour donner deux cas très, très opposés. Comment se comporter pendant les réunions, ainsi de suite. Lui, il est le chef. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, « Je suis là au milieu d'eux, dit-il. » En mon nom, ça veut dire envers mon nom. Ça veut dire lui comme chef étant le seul point d'attraction, mais aussi le seul dirigeant, la seule autorité. Même en Marc, alors que c'était encore Marc 14, donc avant que l'Église ne soit formée, les disciples ont demandé « Où veux-tu que nous te préparions ?» La Pâque. Il ne s'agit donc nullement de la question si nous nous réunissons là ou cela nous plaît mieux. Ça, c'est très à la mode de nos jours. Je me sens à l'aise. Où nous nous sentons chez nous, où nous étions dès bas âge par nos parents, où il y a plus de bénédictions, plus d'activités, plus de croissance numérique, ainsi de suite. La grande question est, est-ce que nous sommes réunis selon la parole? Si nous sommes réellement réunis selon la parole, en respectant tout ce que le Seigneur a dit, nous allons nous sentir à l'aise. Mais ce n'est pas là le point de départ que je dois me sentir à l'aise. Ma sœur a cherché une dénomination où elle se sentait à l'aise. Je crois qu'elle a eu besoin de 10 ans ou 15 ans. Je ne sais pas si elle en a déjà trouvé. Parce que partout où tu es, un an, deux ans, il y aura des croyants qui vont te décevoir. Des pratiques qui vont te casser, te décourager. C'est pour cela que ce n'est pas la bonne question à se poser. Ce n'est donc pas nos opinions, nos pensées qui comptent, mais ce que le Seigneur Jésus a dit dans sa parole. Il est le seul centre. Sa parole est la seule norme. Son esprit est le seul à nous guider. Et cela nous suffit. On me pose souvent la question, mais qui donc vous dirige ? On dit, le Seigneur. Ah oui, oui, je comprends bien, mais qui vous conduit donc ? Je dis, le Saint-Esprit. Non, non, mais quel frère donc ? Je dis, personne. Vous, mais ça ne peut pas marcher, ça c'est du désordre. Oui, c'est comme ça, parmi des vrais enfants de Dieu, qu'on pense que laisser la direction et l'autorité au Seigneur Jésus, au Saint-Esprit, c'est du désordre. Mais quand on va établir alors quelqu'un ou même un conseil d'anciens pour qu'il dirige l'Église, on dit que ça c'est de l'ordre. Oui, c'est un ordre humain, mais pas selon la parole de Dieu. J'ai souvent demandé, mais donnez-moi quelqu'un qui est plus puissant que le Seigneur Jésus. Il dit, mais ça n'existe pas. Mais je dis, mais pourquoi ? Voilà. Nous, on veut donner la place à celui qui a la plus haute autorité et tout le pouvoir. Pourquoi ne pas lui faire confiance ? Pourquoi penser que si on établit un homme ou des hommes pour diriger l'Église, comme on le dit, ça doit marcher mieux que de donner toute la place qui revient au chef? Ça ne peut pas marcher ainsi. Alors, je crois que si ainsi, réunis au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire réellement acceptant toute son autorité, toutes ses prescriptions, son ordre pour la maison de Dieu, si on est réunis ainsi, alors on rend visible cette seule et unique Église en faiblesse. En faiblesse, malheureusement, parce que ça nous caractérise tant que nous sommes sur la terre. On a souvent posé cette question, mais n'est-ce pas orgueilleux de rester séparé avec d'autres croyants ? Je voudrais inverser la question et je vous donner une illustration. Au moins une partie, une bonne partie même de la région ici a aussi été agricole, non ? Donc, un agriculteur, un vignoble par exemple, il a 10 fils. Et le soir, lui étant un peu âgé, il réunit ses 6 fils. Et il leur dit, écoutez mes fils, demain matin, j'aimerais qu'à 8 heures, vous commenciez le travail dans tel champ et que vous fassiez telle et telle chose. Le père, comme il est vieux, il part au lit. La discussion s'enflamme entre les fils. Et l'aîné dit, écoutez, vous savez tous que papa, il perd la tête, quoi, hein. Et de toute façon, il n'a pas grandi dans nos temps modernes. Donc, je veux bien un peu lui écouter, mais je crois que c'est mieux de faire comme ceci et cela. Le deuxième a une autre idée. Le troisième a une autre idée. Le quatrième a encore une autre idée. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Maintenant, numéro 5, 6, 7 et 8, ils se rangent du côté de 1, 2, 3, 4. Maintenant, le numéro 9 vient et il dit, mais on lui dit que, mais tu penses quoi ? Il dit que, mais on a tous écouté, non ? Faisons tout simplement ce que papa a demandé. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Et tu es orgueilleux, tu penses que tu connais mieux que moi ? Je suis ton aîné. Et on dit à Benjamin, au petit, regarde Benjamin, tu vas faire quoi ? Je suis d'accord avec le numéro 9. On dit que vous, on les taxe alors d'orgueiller autant. Ils ne veulent pas se soumettre aux autres, les autres qui sont même la majorité, ainsi de suite. Qu'est-ce qui est l'orgueil? C'est la désobéissance au Père qui est l'orgueil. Et si les deux obéissent avec leur petit nombre à leur papa, c'est eux qui sont humbles et se soumettent. Mais dès qu'alors ils pensent que, regarde-nous, nous faisons mieux que les huit autres, là aussi ça ne va pas. L'orgueil entre. Et est-ce que, n'est-ce pas le cas que même en ayant découvert parfois dans la parole de la vérité, n'est-ce pas parfois que nous aussi on a été contents de l'avoir découvert et on en est devenu un petit peu, ou même peut-être très, fier. Ça a commencé avec la reconnaissance et ça a fini avec la fierté et l'orgueil. Et là, c'est dangereux. La soumission au Père, voire au Seigneur Jésus, est bien. Mais si on le fait dans une attitude où on se pense être mieux que les autres, on dévie de la parole de Dieu. Nous ne sommes nullement mieux que les autres. Si le Seigneur nous a montré quelque chose dans la parole, qu'est-ce que nous avons pour nous en vanter? J'aimerais encore être un peu plus pratique. Alors, chaque assemblée locale fait partie de la seule assemblée de Dieu universelle. Toutes les assemblées ensemble forment l'entière et l'universelle assemblée de Dieu. Comme aussi, je vais avancer un peu plus, comme aussi, chaque village, chaque hameau même de la France, tout cela ensemble forme le pays. Chaque ville se situe en France. Mais aucune ville ne peut dire « nous sommes la France ». C'est la différence. Ainsi aussi, chaque assemblée locale est une petite partie de la grande assemblée universelle. Je répète bien, l'assemblée de Dieu à Bordeaux, c'est l'ensemble de tous les rachetés. Maintenant, si on avance, chaque assemblée locale porte donc les caractéristiques de l'assemblée universelle. On est presque à la fin si vous êtes déjà fatigué. Donc, si tu prends de l'eau de l'océan dans un gobelet, tu la mets dans les gobelets, tu auras dans les gobelets de l'eau de l'océan, mais tu n'auras pas l'océan dans le gobelet. Dans les gobelets, tu auras ce qui est absolument identique à cette grande, vaste entité qu'est l'océan. Mais tu as une petite partie de cela. Chaque assemblée locale aussi a exactement les mêmes caractéristiques que l'assemblée universelle. Comme l'eau dans le gobelet a les mêmes caractéristiques que l'eau dans l'océan. Et c'est pour cela que chaque assemblée locale est une représentation de l'ensemble. Si la sainteté caractérise l'assemblée de Dieu universelle, ça caractérise aussi l'assemblée locale. Si l'ordre divin et la paix caractérisent l'assemblée de Dieu universelle, c'est la même chose pour l'assemblée locale. Et s'il n'y a que deux ou trois de cette assemblée locale qui veulent être réunis selon la parole, ils n'ont pas à être fiers parce qu'eux, ils font ce que la parole de Dieu dit. Mais dans leur petit nombre et dans leur faiblesse, ils peuvent montrer quelles sont les caractéristiques de cette Église universelle aux yeux de Dieu. Chaque assemblée locale, donc, est une petite partie de cette Église universelle. J'ai encore un autre exemple. Quand on pense aux ambassades, chaque assemblée locale représente toute l'assemblée de Dieu. Chaque assemblée locale fonctionne conformément aux mêmes principes qui s'appliquent à toute l'assemblée, prescrits par le seul chef dans sa parole. Un pays comme la France a plusieurs ambassades à travers le monde. Les règles, modes de fonction, représentation, etc. pour chaque ambassade sont identiques. Ce que tu vois quelque part, quand tu arrives quelque part et tu sais qu'on te dit que d'ici 500 mètres, tu vas trouver l'ambassade de la Russie ou des États-Unis. Tu vas certainement trouver d'énormes bâtiments. parce que c'est ainsi que ces pays veulent impressionner les gens. Alors, chaque ambassade représente son pays. Même règles, même lois, mais pas le même personnel, pas exactement le même bâtiment, ainsi de suite. Ces réalités changent, mais le principe de fonctionnement reste identique. Alors, je crois que cela nous fait comprendre comment en petit nombre, localement, on peut représenter l'ensemble. Dernière illustration pour aujourd'hui, on termine avec cela. Que veut dire l'assemblée locale représente l'assemblée universelle? Par exemple, même dans le domaine sportif, je suis nul là-dedans, je dois dire. Mais si on dit ce soir, la France joue contre l'Islande, alors on sait bien que ce n'est pas quelques 60 à 80 millions de Français qui se trouvent sur le champ de foot, mais c'est juste 11 joueurs. Mais ils représentent la France. Ils jouent comme la France le voudrait, j'espère. Donc, en petit nombre, on peut représenter l'ensemble. En petit nombre localement, quelque peu de croyants, ne serait-ce que 2 ou 3, on peut représenter ce qu'est l'assemblée de Dieu pour le cœur de Dieu et ce que lui, il voudrait que cette assemblée reflète. Puisse le Seigneur nous donner à nous tous le courage et la volonté, l'obéissance à sa parole pour pratiquer cela et ce sera certainement pour notre bonheur et surtout pour sa gloire. Puissions-nous ainsi, dans notre petite mesure localement, réaliser que l'assemblée du Dieu vivant est la colonne et le soutien de la vérité, est une lampe qui fait resplendir dans ce monde celui qui est la lumière du monde. Que le Seigneur nous aide là-dedans. Demain, nous allons continuer, Dieu voulant, avec les caractéristiques d'une assemblée locale selon le cœur de Dieu, avec tout ce que cela implique. J'ai encore quelques questions à répondre sur quelques sujets de ce matin. Plusieurs questions. Qu'est-ce qui nous empêche de proposer la scène à tous ceux qui veulent se souvenir de la mort de Jésus sans lui poser toutes sortes de questions si telle est sa volonté? Je crois que c'est la question de la responsabilité réciproque. Une fois, ça ne fait pas longtemps, un jeune me posait cette question, mais pourquoi faut-il cela? Moi, j'ai dit, nous aimerions mieux te connaître. Et peut-être tu as aussi des questions à nous poser. Pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous faites cela? Pour qu'il y ait liberté mutuelle pour vraiment exprimer la communion. La communion, ça veut dire quoi? La communion veut dire qu'on a un seul sujet de joie. Il faudrait aussi savoir qu'on l'a réellement. Nous allons voir demain des critères qu'on trouve dans la parole pour la participation à la scène, à cette communion exercée en assemblée. Je crois donc c'est utile qu'il y ait une franchise mutuelle quand il y a un entretien pour poser les questions. Bien vrai que quand j'étais jeune homme et j'ai demandé ma place, c'est-à-dire ma place était là dès le jour que je me suis converti, mais j'ai demandé de l'occuper réellement, alors je tremblais un peu pour cet entretien. Et j'encourage les frères à faire tout leur effort possible pour que les gens tremblent moins en demandant leur place. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. J'aimerais aussi dire ceci, qu'à ce que je sache, il n'y a nulle part dans la parole de Dieu une indication qu'on propose la scène à quelqu'un. Pourquoi? Pour la simple raison, il en est de même pour le baptême, au moins selon ce que je vois. C'est-à-dire, il faudrait que la personne s'exerce elle-même et comprenne que oui, mon Seigneur demande ça de ma part. Au lieu de lui tendre comme ça le pain, donne-lui le temps de réfléchir s'il le veut. Parce que la participation est une bénédiction et une responsabilité. Ce n'est pas seulement une bénédiction, une responsabilité aussi. « on ne devrait pas poser toutes sortes de questions à une telle personne, mais quand même certaines questions qui sont liées aux critères de la parole de Dieu qu'on va voir demain. Alors, je ne veux pas déjà avancer là-dessus pour déjà traiter les sujets de demain. Pourquoi on ne prend pas la scène au début de la réunion de dimanche? Il n'y a aucune prescription là-dedans dans la parole. Nous, là où je grandissais, on avait le culte à 9h30. Le dimanche matin, je me rappelle que le frère à mon grand-père, qui avoisinait déjà les 80 ans, un dimanche matin à 9h40, il s'est levé pour rompre le pain. Et nous, alors, pour nous, c'était la preuve sûre qu'il perdait la tête. Comme jeune homme, j'avais peut-être 12 ans, 14 ans. Ce n'est qu'après que je me suis dit, mais pourquoi ? Alors, le frère Jacob dans le passé a répondu à cette question par écrit dans le périodique aux Pays-Bas, et il a dit que souvent, la fraction du pain, malheureusement, ne se fait que faire la fin du culte. Il dit que c'est probablement parce que le Seigneur ou le Saint-Esprit a besoin de tant de temps pour nous amener à un niveau où nous devrions être au début. Ce que j'ai constaté plus tard, c'est que ce frère-là qui a rompu le pain à 9h40, 10 minutes après le début, était dès le début à la hauteur où nous n'étions pas. Et c'est pour notre honte. Nous devrions quand même comprendre, je ne veux pas être sans révérence, mais la fraction du pain n'est pas le dessert, mais c'est le repas principal, si je peux le dire ainsi. Ce n'est pas ce qui devrait être à la fin, mais ce qui devrait peut-être plutôt avoir une place au milieu. Je ne veux pas prescrire quelque chose, mais je donne ça en réflexion. Maintenant, on entre dans des délicatesses de la francophonie. Je m'en excuse, je ne peux me soustraire à cette question. Pourquoi, au moment où un frère ou une sœur affirme sa volonté de partager la scène, cela prend du temps? Cela ne devrait-il pas être immédiat? Bon, je dis que immédiat, c'est un peu trop vite. Mais le rythme français que je connais est incompréhensible, inexplicable, peu fraternel et contraire à la parole de Dieu. Je ne sais pas si je peux être plus clair là-dessus, mais si j'entends que quelqu'un a demandé sa place, mais on a tant de choses à parler, donc c'est après 3 mois qu'à la réunion d'administration, on en parle pour dire que le mois prochain, on va voir quels frères vont partir, et après 6 mois, la première commission descend, après 8 mois, la deuxième. Et après 1 an, la personne prend sa place. Mes frères, vous volez au moins pendant 48 à 50 dimanches la personne d'un privilège, d'une responsabilité et d'une obligation. Je peux bien comprendre que la vie en France semble encore être pire qu'aux Pays-Bas, que vous soyez tellement pris, mais je dis que c'est de la négligence reprochable si ce rythme s'introduit. Jusqu'au moment où la personne demande sa place, c'est elle qui a été responsable de son retard à prendre sa place. Mais à partir de ce moment, chaque dimanche qui passe, je ne dis pas qu'elle doit prendre la place le dimanche après, je ne suis pas pour la précipitation, mais je dis clairement, nous avons normalement une fois par mois une réunion d'administration, mais si nous avons juste eu cette réunion et que 2 jours après, une personne demande sa place, on est frères. On peut se contacter pour dire que la sœur X a demandé sa place. Lesquels d'entre nous pourraient parler avec elle pour que, au plus tard, la réunion d'administration après, on puisse savoir si mutuellement il y a liberté pour proposer la sœur à l'Assemblée. Je trouve quand même les rythmes que j'ai entendus, peut-être pas partout en France, mais par-ci et par-là, en France, exagérés et difficiles à expliquer quand on vient devant le Seigneur. Très difficile. Parce que dès le moment que la personne a demandé sa place, et si ça prend 2 semaines, 4 semaines, c'est autre chose, c'est encore explicable. Si ça prend 4 mois, ce n'est plus la personne qui va dire devant le tribunal de Christ que pourquoi tu n'as pas rompu le pain, c'est vous. Parce que vous étiez tellement occupé que pendant 4 mois, la personne n'a pas pu rompre le pain. Mes frères, je m'excuse de terminer avec une question si délicate, mais je crois que c'est inexcusable un tel retard. Ce qui est encore malheureux, c'est que par-ci et par-là, en Afrique, on a copié ça. Donc, même au Cameroun, c'était le rythme par-ci et par-là dans les débuts. Mais heureusement, les frères ont compris que ce n'est pas, ils n'ont pas le droit de refuser ainsi. Ça ne peut pas être le cas. J'espère que je ne vous trouble pas trop à la fin de cette étude, que ce n'est pas le seul point que vous allez retenir. C'est un privilège et une responsabilité de tout enfant de Dieu. S'il y a des raisons palpables qui font que la personne ne puisse pas encore prendre sa place, c'est autre chose. Je parle du cas normal où il n'y a pas de raison palpable, mais juste parce que nous, on n'a pas le temps, on reste stagnant pendant 4 ou 6 mois. Ou même au-delà, je ne vais pas vous citer ce que j'ai entendu, parce que je suis encore très doué avec mes 4 à 6 mois. Donc, rappelons-nous ce privilège. Nous n'avons pas le droit de priver les croyants qui répondent aux critères bibliques de ce privilège et de cette responsabilité.